Ecclesia Magazine.
Ecclesia Magazine.
Maxime Dahl.
La basilique d'Argenteuil accueillera à partir du 13 octobre prochain les veillées Eleison. On va en parler. Soirée de prière consacrée aux malades, à leur guérison et à la libération des âmes tourmentées. Mais qu'est-ce qu'une âme tourmentée? On va en parler avec le père Guy-Emmanuel Cario. Alors ce nouveau rendez-vous confirme le sanctuaire de la Sainte Unie comme un lieu où se reçoivent les grâces du salut de la Passion du Christ. Mon père, bonjour.
Bonjour Maxime.
Alors vous êtes le recteur de la basilique d'Argenteuil, on vous connaît bien maintenant sur les ondes de Radio Notre-Dame. Et pour cause, depuis 2016, c'est un succès, tous ces pèlerinages, toutes ces actions qui sont menées autour de cette sainte tunique d'Argenteuil.
Alors c'est la miséricorde qui est un succès et on lui souhaite encore de beaux jours devant elle. Et effectivement, la grâce de la sainte tunique du Christ n'a pas disparu une fois qu'elle a été rangée dans son petit reliquaire après l'ostension de 2016 qui avait drainé de grandes foules, 230 000 personnes. Nous avons prié lors de la journée de vénération qui a eu le 2 avril dernier, oui. Déjà pour les malades et pour les âmes tourmentées. Et la très belle réponse des fidèles nous a encouragés à poursuivre dans cette direction. Donc c'est pour ça qu'on propose ces veillées de prière pour les malades, pour la guérison des malades et la libération des âmes tourmentées.
Alors ce qu'il faut dire peut-être déjà sur la Sainte Unique d'Argenteuil, c'est que vous la conservez, enfin vous et tous vos prédécesseurs, depuis 1200 ans.
Exactement, elle est arrivée à Argenteuil en 800, le 12 août à 13h. On est la seule église du monde qui sonne l'Angélus à 13h. Grâce à un adulte de l'archevêque de Paris qui est archevêque d'Argenteuil à l'époque.
Voilà. Alors pour les auditeurs qui ne le savent pas encore, mon père, cette basilique, oui d'une part, mais aussi cette tunique, cette sainte tunique du Christ, c'est la tunique que le Christ portait précisément lorsqu'il a été crucifié, juste avant sa crucifixion.
Voilà, c'est ainsi qu'elle est conservée en tous les cas, elle est considérée comme la tunique de la Passion, celle dont parle Saint Jean au chapitre 19 de son évangile. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils se partagent les vêtements. Les auditeurs connaissent sûrement ce passage. Mais la tunique, ils ne la déchirent pas parce qu'un quart de tunique, ça ne sert à rien. Donc, ils la tirent au sort. Et voilà. Et le texte dit aussi que c'est un tissu qui n'est pas cousu. C'est-à-dire, il est sans couture, inconsutile, c'est le mot exact. Et tissé toute une pièce de haut en bas. Voilà, donc c'est donc une relique du chemin de croix. Vous voyez, c'est comme ça qu'on la vénère, gorgée du sang du Christ après la flagellation. Mais aussi une relique sans doute des moments qui ont précédé la comparution devant Pilate, l'arrestation et la Sainte Cène. Donc c'est très beau, vous voyez, c'est toute la Passion qui est ici vénérée quand on est devant la Sainte Tunique, devant laquelle on peut venir en permanence. Pendant les ostensions, elle est déroulée et montrée, mais sinon, elle est toujours à Argenteuil.
Elle est toujours présente, bien sûr.
Exactement, et beaucoup de gens passent. On peut passer sous le reliquaire, il y a une sorte de petit tunnel. On est vraiment sous la Sainte Tunique. C'est un beau symbole, je trouve, et un beau lieu de conversion et de miséricorde.
D'ailleurs, ce petit tunnel a été réalisé il y a un petit moment.
Il maintenant. A été réalisé après l'ostension. Le tunnel existait déjà. Ouais. On ne creuse pas un tunnel comme ça dans une église. Mais j'ai fait réaliser par une artiste deux très belles fresques orientales. Une qui représente la Passion, enfin la croix, là, et puis une autre, le partage des vêtements par les soldats.
Cette tunique, mon père, elle est authentique? J'imagine que c'est une question qu'on a dû beaucoup vous poser depuis, en tout cas depuis 2016, depuis qu'elle est apparue au grand jour, si l'on peut dire.
Écoutez, est-ce que vous croyez, Maxime, à Vercingétorix?
Oui.
Voilà. Maxime a l'air d'être un bon Français. Il croit à Vercingétorix.
Les Gaulois.
Voilà. Vercingétorix. On a une mention de ce nom dans la guerre des Gaules de Jules César. C'est tout. C'est tout. Tous les Français croient à Vercingétorix. Nous, on a une avalanche d'éléments d'authenticité. Je ne veux pas en parler maintenant. J'en ai déjà parlé ici. Qui nous font penser qu'en tous les cas, il n'y a rien qui nous dit qu'elle n'est pas la tunique du Christ. À titre personnel, ma conviction profonde, c'est qu'elle l'est. Et je pense que beaucoup de gens qui sont passés en 2016 parmi les 230 000 ont fait aussi cette expérience. Vous voyez, il faut dépasser aussi l'objet pour voir ce qu'il représente. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de faire un culte matérialiste un peu de cette relique. Mais quand même, voilà, on se dit, je prends ça comme un trésor que nous, on n'a pas le droit d'enfouir. Et justement, c'est veillé Eleison. On essaye d'ouvrir ce trésor un peu pour tout le monde.
Alors justement, on va en parler de s'éveiller Eleison et tout d'abord se demander en quoi, enfin, quel est le rôle précisément d'une relique, quel est le rôle de la Sainte Tunique? Pourquoi prier devant cette Sainte Tunique qui est un objet certes mémorable, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un rôle symbolique pour justement se mettre dans ce récit de la Passion, pour s'y inclure davantage.
Exactement. Je me souviens très bien pendant l'ostension, tandis que la tunique était exposée derrière nous, on a eu l'office du Vendredi Saint, présidé par Mgr Lalanne, et quand on a lu la Passion selon saint Jean, on a parlé de la tunique du Christ, je me dis, mais on est la seule église du monde où la tunique est là, c'est quelque chose de très beau. Reliquier, les reliques, ça veut dire les restes, ce qui reste. Donc, c'est ce qu'on peut toucher. Vous voyez, ce qu'on peut, alors on ne peut pas vraiment la toucher là, mais ce qu'on peut voir avec nos sens, toucher, ça touche vraiment la matérialité de notre vie. Là, il faut être un peu matérialiste, c'est-à-dire ça touche... alors peut-être que certains auditeurs, certaines personnes n'ont pas besoin de ça pour croire. Tant pis, tant mieux, je ne sais pas. Mais beaucoup de gens ont besoin de ça pour croire aujourd'hui. Et moi, je le prends comme une grâce aussi pour l'évangélisation, la nouvelle évangélisation. C'est quelque chose de très beau. Et effectivement, prier devant, c'est se laisser approcher par le mystère de la Passion du Christ, le mystère de son amour, de son sang versé pour chacun d'entre nous. Je crois qu'il y a quelque chose qui passe, qui touche aussi l'humanité de manière très proche. Et je le trouve ça très beau. Le pape François parle beaucoup de ça, la piété populaire. Oui. C'est une piété qui a besoin sans doute d'être entourée, évangélisée, etc. Mais il ne faut pas s'en méfier. Au contraire, il faut l'accompagner.
Alors mon père, c'est vrai que depuis le début de l'histoire de l'Église, les reliques ont été bien sûr mises à l'honneur, ont été priées et ont parfois été source justement de miracles, de guérisons miraculeuses, par exemple, pour ne citer que ce type de miracle. Comment expliquer justement que le fait de prier une relique, ou du moins vénérer une relique, puisse faire intervenir un miracle divin ?
Alors, c'est une très bonne question. On voit effectivement d'immenses sanctuaires. Je pense à Saint-Martin de Tours, par exemple. Pendant tout le premier millénaire, c'est un lieu où tout le monde en France est venu là-bas. Les rois, les évêques, etc. Et un peuple chrétien très nombreux. D'immenses guérisons ont eu lieu au contact du tombeau du saint. Et c'est vrai, beaucoup de reliques dans le monde sont le lieu aussi où il y a des guérisons. Donc il y a plusieurs manières de prier pour la guérison, etc. On a évidemment l'onction des malades, on a le charisme de guérison qu'on voit dans certaines veillées de prière. On a les pèlerinages dans les grands sanctuaires, pensons à Lourdes par exemple. Mais on a aussi le contact avec les reliques. Alors, je crois qu'il y a évidemment quelque chose quand on vient prier devant une relique, quand on médite, quand on est avec toute l'Église, parce qu'il y a du monde en général, nous nous remettons face au mystère de Dieu qui nous pousse aussi à cet acte de foi. Je repense évidemment aux épisodes bibliques des évangiles qui nous racontent la rencontre de la femme qui perd du sang avec Jésus et qui se dit « si je touche seulement son vêtement, je serai », elle ne dit pas « je serai guéri », elle dit « je serai sauvé ». Et c'est très important et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va organiser nos veillées de prière. Ce qui est au bout, vous voyez, de l'acte de foi, c'est le salut. La guérison qui pourrait devenir une sorte d'idole aussi. Voilà, Jésus invite toujours les gens qu'il guérit à un geste, hein, ou à le suivre, ou au contraire à l'annoncer. Et il les met en marche une fois qu'il les guérit. Donc, c'est le salut, c'est la conversion qui sont la plus belle des guérisons que Dieu offre. Et il peut le faire, parce qu'il est Dieu, par des reliques. Oui.
Alors cette première veillée de prière Eleison se tiendra donc le 13 octobre prochain à la basilique d'Argenteuil. Pourquoi d'ailleurs ce nom Eleison et peut-être rappeler un petit peu l'étymologie de ce terme?
Alors on a beaucoup cherché un nom, mais Eleison nous a apparu comme quelque chose d'assez clair et évident. C'est un cri que nous entendons dans les évangiles maintes fois, un cri qui part des pauvres et qui s'adresse à Jésus. On pense à Bartimée, par exemple, l'aveugle de Jéricho, mais aussi à d'autres malades. « Prends pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, aie pitié. » C'est un cri. Et je pense à tous les cris des hommes et des femmes aujourd'hui, particulièrement les malades, particulièrement les gens qui sont sous l'oppression d'un certain nombre d'esclavages. Ce cri, nous avons envie de l'articuler avec eux, pour eux, pendant les veillées Eleison. Ce cri, tout le monde connaît le Kyrie Eleison, c'est ce qu'on entend pendant l'acte pénitentiel au début de la messe, de l'Eucharistie. Kyrie Eleison, Seigneur, prends pitié. Eh bien voilà, nous, les soirées Eleison, c'est les soirées où on va pouvoir crier silencieusement, intérieurement, et articuler ce cri ensemble pour en faire une prière à Dieu.
Alors, c'est vrai que ces soirées seront thématisées justement sur des prières de guérison diverses et variées, guérison de l'âme, guérison du corps, qui sont d'une certaine manière la prolongation de l'année de la miséricorde, où le pape nous demandait de prier là aussi pour les malades, ne serait-ce que parce que ça fait partie justement des actes de miséricorde spirituels. On est tout à fait dans cette démarche-là.
Tout à fait. Il y a trois intentions, en fait. Hein. D'abord, j'ai envie d'être précis là-dessus, parce que la première intention, c'est de prier pour les malades. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes malade, quand vous venez d'apprendre que vous avez un cancer ou que vous attendez des résultats médicaux difficiles, que vous êtes dans l'angoisse, qu'à cause d'une maladie, vous perdez votre travail ou votre vie familiale en est complètement transformée, vous perdez de l'énergie. Enfin bon, j'imagine hélas qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent se reconnaître dans ces traits-là. Je pense que les malades méritent la prière de tous et de toute l'Église. Et parce que leur vie est atteinte et ils sont atteints souvent dans leur force vitale. Alors, je crois que souvent on prie pour la guérison des malades, c'est génial, mais il faut d'abord prier pour les malades. Prier pour qu'il y ait un accompagnement de ces personnes, pour qu'ils gardent la force, l'espérance, la foi, c'est important, et l'unité intérieure. Donc ça, c'est la première intention. Et vraiment, et toutes sortes de maladies. Il y a les maladies physiques, il y a les maladies psychologiques, psychiatriques. Il y a vraiment des gens qui vivent dans la difficulté à vivre, dans la nuit, dans les ténèbres. Il y a vraiment besoin de la prière de toute l'Église et de le faire devant la Sainte Unique, ce n'est pas rien. Ça, c'est la première intention. Mais la deuxième intention, c'est aussi de prier pour la guérison des malades. Et on s'autorise à faire ça parce que ça pourrait paraître un peu sensationnaliste ou ce n'est pas du tout notre but.
La première intention, si je puis me permettre, mon père, est en fait une intention totalement désintéressée, c'est-à-dire la prière pour, effectivement, pour son prochain. Et la deuxième, justement, on invoque plus la guérison, etc. Donc là,
toute prière est désintéressée, Maxime.
Mais on espère qu'elle se réalise. Donc
pour la prière pour les malades aussi. Ouais. Quand on demande la force pour un malade, en plus le malade peut sentir aussi toute la compassion de l'Église à ce moment-là. Dire, mes frères et mes sœurs, prie pour moi. Je trouve que c'est très beau, ça déjà. Ouais. Et puis, on veut aussi prendre au sérieux. L'invitation que Jésus fait dans l'Évangile, et puis qu'on voit reprise dans les Actes des Apôtres, et tout ça, quand Jésus nous dit « guérissez les malades ». Alors comment on fait pour guérir le malade? Moi, j'en sais rien. Sûrement quand on est médecin, ça, certainement il y a des choses à faire. Si on a un bon médecin, on essaye de guérir les maladies. Mais il le dit à l'Église, il le dit à ses disciples. Et bien, il y a une manière toute belle et toute simple, éprouvée par la tradition de l'Église, c'est de prier pour la guérison des malades. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Ensuite, Dieu fait ce qu'il veut. On va laisser Dieu faire son job de Dieu et on ne va pas lui mettre des rails pour qu'il fasse exactement ce qu'on désire. C'est un cri, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un cri poussé vers Dieu. Nous allons pousser ce cri vers Dieu pour demander la guérison des malades. Et puis, que cette guérison des malades soit vraiment un premier signe pour la conversion, le salut. Hein, c'est bien ça qui est visé ultimement. Donc, prier pour la guérison des malades, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement à l'Église, dans la prière universelle, à la messe du dimanche, dans votre paroisse. Souvent, on prie pour cela. Et je crois qu'il y a vraiment une belle prière à faire monter vers Dieu pour cela.
Alors je rebondissais justement là-dessus, sur cette prière, sur ces prières de guérison, car comme vous le savez, il y a dans certaines paroisses justement des veillées de prières de guérison, un peu comme vous allez le faire, à la différence que il y a des guérisons qui s'opèrent, si l'on peut dire, au moment de ces veillées de prière. Je pense par exemple à Notre-Dame-des-Champs,
Saint-Nicolas-des-Champs,
pardon,
oui,
par exemple, hein, où il y a
oui.
vraiment une espèce d'engouement presque un peu extraordinaire, là c'est le moins qu'on puisse dire, et où il y a des guérisons ici ou là. Ça sera distinct de ce type de veillée, justement.
Alors, il y a plusieurs veillées de prière en Île-de-France,
oui.
Comme ça. Je pense aussi aux soirées Raphaël de mon excellent confrère, l'abbé Ratti, à Melun, qui sont un peu sur le modèle de Saint-Nicolas-des-Champs. Alors, nous, il n'y aura pas exactement l'exercice des charismes,
oui.
comme on le voit dans ces veillées, même si j'en pense beaucoup de bien par ailleurs. Pour nous, alors je ne sais pas si c'était logiquement tout à fait juste de parler ainsi, mais on va remplacer un peu ce charisme de guérison par la vertu propre de la Sainte Tunique. Hein, on va aussi se mettre devant pour recevoir cette grâce accordée aux pèlerins. Quand vous regardez dans la chapelle de la Sainte Tunique à Argenteuil, vous avez des dizaines et des dizaines d'ex-voto, de remerciements suite aux guérisons obtenues. Est-ce qu'il y aura des guérisons le 13 octobre? Je le souhaite de tout mon cœur. Mais que Dieu agisse comme il le désire,
oui.
On recueillera évidemment les témoignages. Mais...
Parce qu'après, il pourrait toujours avoir l'écueil justement d'une forme de recherche de sensationnalisme de la part de pèlerins qui pourraient venir, par exemple. Et d'être déçu par ailleurs si
écoutez,
rien ne se passe.
Quand vous allez dans un hôpital et que vous allez vous faire soigner et que vous n'êtes pas guéri, on ne ferme pas l'hôpital pour autant. Hein. Mmh. Donc, ce qu'on va proposer vraiment comme grâce ultime de ces soirées, c'est le salut, c'est-à-dire c'est la conversion. C'est pour ça qu'il y aura aussi beaucoup de prêtres qui seront là pour confesser, parce que c'est là ouais. où se guérit le cœur, vraiment, de l'homme, ultimement. Et ce qui nous prépare le mieux à aller au ciel, ce n'est pas d'être guéri physiquement, c'est d'être guéri spirituellement. Mais, comme dans l'Évangile, le Christ peut aussi appuyer cela par une guérison physique. Voilà. Écoutez, on verra. Nous, on va demander à Dieu, ensuite il fera ce qu'il voudra.
Alors, vous évoquez justement dans ces soirées de guérison, de prière, de veillée de prière, de guérison devant la Sainte Tunique, également la prière pour les âmes tourmentées. Qu'est-ce qu'on entend par les âmes tourmentées? C'est justement des âmes qui ne savent plus très bien où elles sont, qui ne sont plus forcément sur le chemin de Dieu et qu'il faudrait peut-être aider là aussi.
Alors écoutez, aujourd'hui, tous les prêtres et puis les gens engagés un peu dans l'annonce de l'Évangile savent que beaucoup de nos contemporains, dans et hors de l'Église, sont liés par tout un tas de liens. Il y a des liens psychologiques, psychiatriques, mais aussi il y a des liens spirituels. Et c'est ces liens dont nous parlons quand on parle des âmes tourmentées. Donc les liens spirituels, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des liens qui sont contractés quand, par exemple, on va voir des voyants, quand on parle soi-disant avec des morts, quand, tout en étant chrétien, on continue à un peu une religion païenne par ailleurs, etc. etc. Je vous assure, je sais qu'aucun des prêtres qui peuvent nous écouter en ce moment ne peut dire le contraire, parce qu'on entend ça au confessionnal en permanence.
Mmh. Hein.
Et si on l'entend au confessionnal, c'est-à-dire qu'il y a aussi plein d'autres gens qui ne se confessent jamais de ça. Or, c'est des choses qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur complètement à Dieu. Et c'est une complicité un peu avec les forces du mal. Donc, nous allons demander aussi, et j'ai bien conscience que ça interroge beaucoup quand on parle de ça, on va prier le Seigneur aussi qu'il libère, qu'il nous donne aussi une délivrance, une libération de ces liens-là. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un exorcisme public, ça c'est totalement interdit par l'Église, mais justement, moi j'avais eu cette intuition après la Sainte Tunique, et j'ai été confirmé vraiment joyeusement dans cela, parce que le service national pour de pastorale sacramentelle, enfin liturgique et sacramentelle, a édité en 2017, au mois de mai je crois, un guide qui s'appelle Protection, délivrance, guérison, PDG, ça fait. Et c'est pas un rituel, mais c'est un livre de prière destiné à ce genre de cas. Voyez.
Oui.
Donc on va s'appuyer sur ce qui sort de la conférence des évêques. J'en suis très heureux, on s'est procuré ce livret et qui va nous servir aussi de guide aussi pour la prière pour la libération et la délivrance de ces personnes.
Alors la première veillée de prière Eleison se déroulera donc le vendredi 13 octobre à partir de 20h, de 20h à 22h. Peut-être évoquer rapidement, mon père, justement le programme de cette veillée de 20h à 22h. Prière pendant 2 heures, ou est-ce que ce sera effectivement alimenté d'un topo, je ne sais pas.
Alors, on va commencer, comme dans toute bonne célébration chrétienne, par une petite liturgie de la parole et une prédication qui va essayer de présenter, refaire un peu différemment, mais ce que je suis en train de faire avec vous, d'expliquer ce qui se passe là. Et puis en ayant écouté l'évangile du salut, après la prédication, il y a deux grands moments. Il y a un moment d'intercession qui va être assez long, pendant lequel les fidèles vont être invités à passer sous la Sainte Tunique. D'accord. Et à vénérer un petit morceau de la tunique qu'on a de manière amovible dans un petit reliquaire. Donc, pour qu'il y ait ce contact avec la relique, hein, comme à l'ostension, où c'était vraiment une belle chose de passer devant la Sainte Tunique.
Et voilà. Peut-être justement, oui, sur ce passage du tunnel, c'est important de ritualiser tout cela, le rituel d'une manière générale.
Oui, je crois. Ouais. Je crois que c'est un lieu de communication. Les anthropologues en parlent bien, de communication avec le divin dans toutes les religions, mais qu'il y ait une ritualité. Quand on va à Lourdes, on passe à la grotte de Massabielle. Hein, quelle que soit la tendance qu'on peut avoir intérieurement, on passe à la grotte de Massabielle. C'est obligatoire. Tout le monde y passe. Et parce que c'est un lieu très beau, vous voyez. Quand on voit que le pape Jean-Paul II, eh ben, il a touché le rocher. Alors, ça peut paraître un peu populaire de toucher le rocher, pas extrêmement spirituel, on est loin de Saint-Jean de la Croix, etc. Eh ben non, en fait, c'est une démarche de pauvre aussi. Mmh. Et je pense qu'on a aussi un peu à humilier notre intelligence de temps en temps, à abaisser notre intelligence, vous voyez, c'est pas du tout à y renoncer, mais à l'abaisser. Et quand on passe sous le tunnel, faut un peu se pencher. Oui. Bon, moi, pas trop, parce que je suis pas très grand, mais les plus grands doivent vraiment se courber. Un peu comme quand on rentre dans la basilique de la Nativité à Bethléem, il faut vraiment se courber. C'est très beau, ça, je trouve.
Donc il y aura ce passage sous le tunnel et ensuite, après cette intercession.
Ensuite, il y aura deux prières, une pour la guérison et une pour la libération. Ouais. Et un moment d'adoration, après, d'adoration eucharistique, parce que c'est pour bien montrer que, voilà, même si on est très heureux d'avoir la Sainte Tunique, mais Jésus dans l'Eucharistie, c'est encore mieux, évidemment. C'est lui qui agit. Donc il y aura un moment de silence. Ça me semble vraiment important qu'il y ait aussi ce moment de recueillement. Et puis le Saint-Sacrement passera dans l'assistance aussi, pour bénir un peu les gens d'un peu plus près. Voilà. Et on terminera par prier la Sainte Vierge, parce que c'est la maîtresse de maison, il ne faut jamais oublier de la prier.
Alors cette veillée, mon père, elle est destinée à qui ? À tous ceux qui nous écoutent, à des catholiques plutôt confirmés, à n'importe qui, je ne sais pas.
Écoutez, tout le monde est vraiment le bienvenu. Évidemment, les malades. Donc je signale au passage qu'on a un accès pour les personnes handicapées qui seraient en fauteuil, par exemple, ça pose aucun problème. Il suffit de rentrer par le fond de l'église. Les personnes malades ne doivent pas avoir peur de venir. Elles sont les bienvenues. Les personnes qui accompagnent les malades aussi, je pense aux familles des malades. Et puis tous ceux qui veulent venir, je pense peut-être les gens qui souffrent un peu d'une oppression intérieure, ou qui se sont liés, je parlais tout à l'heure des voyants, des magnétiseurs, etc. Bah, même parmi les auditeurs de Radio Notre-Dame, il y en a.
Donc, un mot sur ces voyants et magnétiseurs, vu que vous en parlez. C'est, là aussi, c'est quelque chose d'assez mauvais, d'assez malsain, ou parce que j'imagine que ceux qui les côtoient ou qui les consultent le font sans doute de manière un petit peu anodine.
Bien sûr. Ouais. Bien, souvent, c'est de manière complètement anodine. Mais même ces praticiens, de temps en temps, ne savent pas exactement ce qu'ils font. Et je ne voudrais pas que ce soit mal pris ou trop généraliste, mais on sait bien qu'un certain nombre d'entre eux servent de canal, un peu, avec les forces, les énergies, etc. Le problème, c'est... quelle est l'identité ? Ils sont canal vers quoi ? Vers qui ? Eh bien, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Et donc, si ce n'est pas de Dieu, on est déjà dans un manque de confiance, vous voyez. Dieu est un Dieu jaloux. Hein. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est les forces du mal. Donc, on a besoin aussi de cette libération. Même si on n'y est pas allé consciemment, on a besoin aussi de demander au Seigneur cette libération de liens. Écoutez, les liens, je pense que tout le monde en a plus ou moins. Hein. Alors plus ou moins, mais quand c'est plus, c'est terrible et ça peut vraiment bloquer les gens dans leur vie spirituelle et dans leur vie tout court. Hein. Et ben je pense que ces veillées vont aussi répondre à ça. Et en tous les cas, nous, on va faire notre boulot, nous allons crier en priant, vous voyez. Ensuite, voilà, demandez, vous recevrez, on a envie, on demande au Seigneur de nous exaucer aussi, humblement, comme des pauvres. On va faire monter notre prière vers Dieu, je le répète, sans aucun sensationnalisme. Ouais. Nous voulons vraiment rester dans une prière chrétienne.
Alors, il y aura 4 veillées pendant toute l'année, donc la première le 13 octobre, et après les prochaines peut-être.
Alors, le 1er décembre, le 26 janvier et le 25 mai. Et puis, on aura encore une journée de vénération, comme l'an passé, le dimanche 18 mars, toute la journée, où là, on sortira le reliquaire de sa chasse, comme l'année dernière. Et c'est Mgr Lalanne qui viendra présider cette journée de vénération, qui sera aussi consacrée aux malades.
Mgr Lalanne, justement, qui disait en 2016, dans le cadre de ce pèlerinage organisé autour de la Sainte Tunique, « Cette tunique est le témoignage concret de la miséricorde du Christ, mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. »
Amen.
Merci beaucoup, mon père. Et puis rendez-vous donc le 13 octobre prochain, vendredi à partir de 20h, en la basilique d'Argenteuil. Merci à vous.
Au revoir.